Dans le panier de Lisa, Lisa Giraud-Taylor.
Et bonjour, bonjour à tout le monde. Alors j'espère que vous avez passé un bon début d'année. On s'est quitté 1er, exactement vers minuit et quart. Et on se retrouve déjà lundi 5 janvier. Et ben écoutez, on repart pour une nouvelle année. En tous les cas, nous, on continue sur notre lancée de la saison 2025-2026 où le panier alterne, comme vous le savez maintenant, le premier lundi du mois, on parle normalement de livres que je vais lire et le dernier de cinéma ou de série ou de documentaire que j'ai vu. Mais janvier, c'est toujours particulier puisqu'il faut faire les bilans. Alors les deux prochaines émissions, aujourd'hui, on va parler de ciné, série, ce que vous voulez. Et le 19 janvier, je vous parlerai de mon top 12 des romans que j'ai le plus aimé en 2025, comme ça au moins... Si vous voulez faire une petite virée dans une librairie, une médiathèque, une bibliothèque, enfin ce que vous avez sous la main, bah écoutez, vous aurez la petite liste de Lisa. Alors on va commencer en musique. On va dire que la musique, enfin en tous les cas le titre pourrait coller à la première scène de la série dont on va parler. Voilà. J'ai fait mon top donc de série et honnêtement, pour ne rien vous cacher, il y en a 10. Il y a un film. Est-ce qu'il y a un film ? Oui, il y a un film. Voilà, 9 séries, un film. Et je les ai classés par ordre de préférence. Voilà, donc on va commencer par le numéro 1. Mais en attendant, c'est Raphaël qui va nous chanter Caravane. Et on se retrouve juste après.
Est-ce que j'en ai les larmes aux yeux ? Que nos mains ne tiennent plus ensemble. Moi aussi je tremble un peu, puisque je ne vais plus attendre. Est-ce qu'on va reprendre la route? Est-ce que nous sommes proches de la nuit? Ce monde a le vertige. Est-ce qu'on sera un jour puni? Est-ce que je rampe comme un enfant? Est-ce que je n'ai plus de chemise? Ou c'est le bon Dieu qui nous fait? C'est le bon Dieu qui nous brise. Est-ce que rien ne peut arriver, puisqu'il faut qu'il y ait une justice? Je suis né dans cette caravane, mais nous partons, allez viens. Cette caravane, et nous partons, allez viens. Allez. Thank you.
c'était donc Raphaël avec Caravane. Alors, on va parler des trois premières séries. En gros, le top 3 de Lisa. La première s'appelle 1883. Donc, c'est la suite, en fait, c'est un préquel de la série Yellowstone. Mais je dois avouer que maintenant que j'ai vu 1883, 1923 et les 5 saisons de Yellowstone, comment vous dire que celle-ci est largement au-dessus des autres? Alors on est en fait avec le début de la famille Dutton qui part. Ils étaient donc des nouveaux immigrants et ils étaient basés à l'Est et on leur ouvre en fait les portes des grandes plaines de l'Ouest, notamment pour aller jusqu'au Montana. Et ils vont parcourir des milliers de kilomètres en caravane. Enfin, en chariot, si vous voulez. Et donc, en fait, la scène d'ouverture est cette famille qui arrive pas loin et qui essaye de trouver un petit lopin de terre, puisqu'en fait, en gros, c'était vierge, donc chacun s'installait où il voulait et mettait son précaré. La scène d'ouverture est absolument terrifiante, vraiment, parce que c'est vu de la perspective d'une personne extérieure, mais on sait que cette jeune femme qui se débat contre la mort et l'attaque des natives, donc des Indiens d'Amérique, comment on va dire, pour expliquer aux gens, si vous ne savez pas ce que c'est les natives, c'est ça. Donc en fait, ces personnes qui sont là depuis la nuit des temps ne comprennent pas, évidemment, que des étrangers viennent s'installer sur leur terre sacrée. Et vraiment, c'est une série qui suit cette jeune femme qui donc est en gros la grand-mère, l'arrière-grand-mère, l'arrière-arrière-grand-mère de toute la saga, et qui va avoir un destin assez particulier puisque elle va dans ce rude ouest. Hein, il faut dire que c'était quand même la ruée a été assez sanglante pour beaucoup de familles. On va la suivre au gré de son installation et surtout au gré de sa rencontre avec ses natives et de jusqu'à épouser carrément presque leur culture et leur connaissance de la terre. Voilà. Alors c'est une série très rude. Vraiment très rude, très sanglante, très, très, très dure dans le sens où, oui, c'était pas des conditions les plus faciles du monde pour ces gens-là. Mais par contre, c'est d'une beauté absolument splendide. La photo est magnifique, les paysages sont sublimes, les costumes, les dialogues, les acteurs sont castés correctement, il n'y en a aucun qui fait une fausse note. Enfin, je veux dire, quelquefois vous dites « Ah, ce personnage, il est moins bien ». Non, 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 tout le monde est parfait. Vraiment, c'est très bien écrit, c'est très bien réalisé. Et puis, il y a un message aussi qui revient vraiment sur cette conquête de l'Ouest qui s'est fait au détriment des gens qui étaient là déjà depuis un moment, y compris de ceux qui s'étaient déjà établi, qui était déjà arrivé dans une vague précédente, puisque là on est en 1883, donc après la guerre de sécession, il y a des gens qui étaient là depuis un siècle ou deux, c'est pareil, voilà. Les nouveaux arrivants ont été d'une violence incroyable, voilà, donc vraiment 1883, si vous aimez les séries un peu western, mais avec un propos correct et non pas manichéen, comme on a vu de nombreux westerns pendant des années, 1883. Deuxième, numéro 2, alors là, carrément, c'est un dessin animé, enfin c'est un film d'animation, plus exactement, qui est fait par Alain Chabat, qui s'appelle Le Combat des Chefs, donc de Astérix et Obélix, hein, puisque c'est forcément calqué sur l'album Le Combat des Chefs. Alors, moi je vais vous dire qu'une chose, c'est du Alain Chabat parfait, et c'est absolument mais sublimissime. Alors les dessins, enfin l'animation, les dialogues, l'histoire. Bon, alors si vous n'avez pas, c'est en fait, il y en a un qui essaye de chez les Romains, qui essaye de monter les Gaulois entre eux. Donc il y en a un qui est très pro-Rome et l'autre, c'est les irréductibles Gaulois du village. Donc à bras raccourcis, il va se retrouver à être obligé d'affronter l'autre chef gaulois qui est pro-Rome. Voilà, et c'est ça le combat des chefs, en fait, en gros. Mais la beauté du truc, c'est que Alain Chabat a fait revenir les enfants Obélix et Astérix. C'est-à-dire qu'on voit Obélix et Astérix enfants, quand Obélix n'est pas tombé dans la marmite, quand il traîne un chien en bois qui s'appelle déjà Idéfix, et on découvre comment la potion magique a été créée, et quel a été l'ingrédient de la potion magique, et comment ça s'est passé que Obélix s'est retrouvé à ne plus jamais pouvoir boire de potion. Et c'est avec toutes les références de la culture pop que vous pouvez imaginer de nos jours. C'est vraiment du Alors, c'est péjoratif de dire ça, mais ça pourrait être du pur produit Canal+, du début de Canal avec les nuls, etc. Mais il y a des références absolument à toute la pop culture. Et moi, je me suis marrée, je me suis gondolée comme une baleine, et je peux vous assurer que c'est le meilleur antidépresseur du monde, ce truc. Vraiment, il y a 5 épisodes qui durent à peu près une trentaine de minutes. Je vous regardez ce truc-là, vous oubliez tous les problèmes qu'il y a autour du monde. Et Dieu seul sait que malheureusement, il y en a, et de plus en plus terrifiant. Mais vraiment, voilà, c'est le combat des chefs, c'est sur Netflix, ça j'en suis sûre. Et voilà, c'est vraiment absolument topissime. En plus, il y a un rapport entre Jules César et Memao à grandiose. Ah, je peux vous assurer, elle est bonne maman. Voilà. Et le troisième, le top 3. Donc, le troisième, c'est la saison 2 de Andor. Voilà. Alors, pour ceux qui aiment Star Wars, Rogue One, donc, qui est le film qui faisait la jonction, en gros, entre l'épisode 3. Pour schématiser, l'épisode 3 et l'épisode 4, commencez pas à gueuler, c'est plutôt proche de l'épisode 4, hein, parce que c'est vraiment, on va dire, allez, 3 mois ou 6 mois avant l'épisode 4. Il y avait un personnage qui s'appelle Cassian Andor, et vraiment, c'est un personnage qui a intrigué beaucoup de monde, parce que pour un résistant, il est peu, fort peu sympathique, et on savait pas vraiment s'il était un résistant, tueur à gages, et voilà. Et donc, ils ont monté une série. Et la première saison était absolument fantastique. Tout était beau. Simplement, c'est vrai que ça montait crescendo, c'est-à-dire que les premiers épisodes, on avait vraiment l'impression, on se demandait où ils allaient, parce que c'était loin de l'univers Star Wars, dans le sens où vous imaginez la galaxie, les vaisseaux, les stormtroopers, les machins, etc. Là, il n'y en avait pas au début. Mais vraiment, saison 1 parfaite, et la saison 2 est vraiment, allez, on va dire, c'est 5 années dans une saison. Et c'est les 5 années qui séparent donc Andorre de Rogue One. Et donc en fait, la fin du dernier épisode de la saison 2, ça enchaîne sur Rogue One, si vous voulez. Et je peux vous assurer qu'après avoir vu la saison 2, vous ne verrez plus jamais Rogue One comme avant. Mais vraiment plus jamais. Voilà. Tout est bien fait. Les 3 derniers épisodes sont à vous fendiller le cœur, voire à vous le déchirer en 19. Il y a un épisode sur une rébellion, sur une place qui est réprimée par les Stormtroopers et plus si affinité, où véritablement la tension à son paroxysme. Moi, j'avais le cœur qui battait tellement fort que je me suis dit, je vais me faire un arrêt cardiaque, je le sens venir. Mais vraiment, j'étais dans un état de stress, comme si j'étais au milieu de cette foule-là. Vraiment, la saison 2 d'Andor est un petit bijou absolu. Et je vous le dis, tout est bon. Voilà, tout est bon. Le déroulé, la finalité des personnages, certains qui se retournent, qui reviennent, certains qui restent droit dans leurs bottes, d'autres qui sont à la fois terrifiants mais attendrissants. Et Cassian Andor. Voilà. La dernière image de la saison 2, ah bah. Vous pleurez, voilà. Non, mais c'est bien, ils sont arrivés à nous faire pleurer. Du coup, quand vous regardez Rogue One derrière, vous dites, ah ouais, ah là 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 là, ah, j'avais pas vu ça comme ça. Ah ben non, forcément, on n'avait pas vu ça comme ça, parce qu'ils n'avaient pas développé comme ça. Voilà, donc ça, c'est les 3 premiers, 1883, Le Combat des Chefs et Andor saison 2. Je peux vous assurer que il n'y a pas mieux. Allez, petite pause musicale et on prend les 2 prochains, donc le 4 et le 5. Petite pause avec Duel au soleil d'Étienne Dao. Oui, comment commencer l'année avec sans Étienne? C'est pas possible. Oh non, c'est pas possible.
Piège où tu te rendras, provoquer duel avec.
Bon, écoutez, hein, bon, bah, on fait ce qu'on peut. C'était Étienne Daho avec Duel au soleil. Moi, je ne m'en lasse absolument jamais. Alors, le numéro 4, c'est Mobland. Mobland, c'est une série britannique avec, attention et excusez du peu, Hélène Mirren, Pierce Brosnan, Tom Hardy. Bon, ah bah déjà, quand on vous dit ça, vous vous dites, si vous êtes cinéphile, bah j'y vais. Voilà. Et vous y allez d'autant plus quand vous savez que Pierce Brosnan et Hélène Mirren sont, en gros, les parrains et marraines du secteur de la drogue et de d'autres trafics à Londres, et que Tom Hardy est leur puits spirituel slash bras armé. Et en fait, la série commence par les deux petits-fils des deux grosses familles qui tiennent tous les trafics, donc celle de Pierce Brosnan et une autre, qui sortent, qui vont en boîte, et un des deux tue l'autre, mais violemment, très très violemment. Alors, plus violemment. Alors attention, c'est produit par Guy Ritchie. Et quelques épisodes sont réalisés par Guy Ritchie. Comme vous savez, Guy Ritchie ne fait jamais dans la dentelle, hein, ça, bah non, ça, violence, on va dire sexe, drogue, rock'n'roll et sang. Voilà, alors attendez-vous à ce genre de choses. Hein, voilà. Si vous avez vu The Gentleman, sa série, ou le film, ah bah c'est sur la même lignée de sanglant et de... Il y a un épisode, à un moment donné, il y a une scène dans un épisode où, avec une tronçonneuse, moi, personnellement, j'ai fermé mes petits yeux. Mais franchement, c'est exceptionnel, vraiment. Ce vieux couple à qui vous donneriez le bon Dieu sans confession, style à traverser la rue, à leur apporter des scones sur une jolie tasse en porcelaine, c'est des tueurs, à la limite. Voilà, papy Pierce Brosnan est terrifiant. Alors, ne parlons même pas de sa femme, hein, de Hélène Mirren, de qui joue le rôle d'Hélène Mirren, qui foutrait la trouille à un régiment d'infanterie, voire à des liégeonnières, hein, ah ben si, et qui est d'une duplicité et d'une fourberie et d'une... la sale bête, voilà. Donc, c'est vraiment la mafia à Londres. Alors, aussi dans la campagne anglaise, hein, dans les Crossroads, qui, c'est des paysages magnifiques, alors vous avez l'impression, voilà, ça pourrait faire... petit endroit de famille, etc. Que nenni. Voilà, tout le monde est à l'unisson dans cette série-là. Ça canarde, ça se tue, ça se trahit, ça se planque, ça essaye de régler ses comptes avec tout, ça marchande comme ça peut. Voilà. Franchement, Mobland, c'est exceptionnel. Alors, c'est la première saison, visiblement une deuxième serait ou en tournage, ou en pourparler en écriture, etc. Mais enfin, en tous les cas, il ne faut pas qu'il lâche la rampe, quoi. C'est trop bon. Et de cinquième série, donc le top 5, le cinquième. Alors, c'est dérivé d'une saga très connue de Jussi Halder Olsen, une saga littéraire qui s'appelle donc le département V en français, because en anglais, c'est le département Q. Oui, alors, j'imagine bien les éditeurs français, ou l'éditeur français, à l'occurrence Albin Michel, quand ils ont récupéré ce truc en se disant « Ouais, ça va faire un carton. » Département Q, en français, ça... Ah, vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'était pas très... Enfin, c'était difficile à vendre. Donc, nous, chez nous, c'est le département V. Mais la série s'appelle Département Q. Donc, oui, Q en anglais. Alors, c'est tenu par le très joli, toujours très joli Matthew God, qui est vraiment, alors, comment vous expliquer ce garçon ? Non, il est beau, il se bonifie en vieillissant. Donc, il reprend le rôle de Karl Mok, qui a déjà été fait dans des séries danoises. Mais là, c'est transposé à Glasgow. Alors, en tant que grande fan de la saga littéraire, j'ai eu un peu peur quand même. Je me suis dit, aïe, c'est à Glasgow alors que c'est au Danemark. Hein. C'est à Glasgow, c'est romagné, donc forcément... Eh ben non, pas du tout, ça prend très bien parce que ça cale exactement sur le tome 1, donc Miséricorde de la saga littéraire. C'est très bien interprété, c'est aussi glauque que dans le livre. Et toutes les personnages qui sont dans la première saison, qui se connaissent, Rose, Assad, etc. Alors que là, qui changent de nom, mais on l'explique. C'est expliqué dans la série pourquoi. Et donc Karl, qui a une tête à claque, qui est un très bon flic, mais qui est un peu une tête à claque. Franchement, c'est exceptionnel. Moi qui connaissais le livre et qui connaissais donc la finalité du roman, j'ai été pris par tous les épisodes. Pour vous dire le niveau de la série quand même, parce que quand vous connaissez bien un livre et que vous connaissez toute la saga, etc., vous avez déjà vu les précédentes séries qui ont été faites, la précédente série qui a été faite, et notamment ce tome-là, bah, vous vous dites, waouh, quand même, ah bah écoutez, transposé à Glasgow, c'est magnifique. Voilà, comme qui dirait, ah bah écoutez, on fait ce qu'on peut. Hein. Alors, autre petite pause musicale, et après on enchaîne sur donc les 6, 7 et 8. Qui sont du très bon niveau. Hein. Bah, s'ils sont dans le top, ils sont dans le très bon niveau. Alors, on va se faire un petit wham. Ah oui, parce que le regretté George Michael, le 25 décembre, on a pensé à lui, hein, parce qu'il nous avait quitté un 25 décembre. Oh, bah, je suis retombée sur The Age of Heaven de Wham. Oui, alors, j'ai évité de vous passer le 31 janvier, décembre, pardon. Oui, oh là, je suis déjà l'année prochaine, moi. 31 décembre, mais bon, voilà, le lutin n'était pas trop d'accord. Il m'a dit, non, on va pas se taper tout Wham. Pourtant, Wham, c'est super. Voilà. Allez, Wham, The Age of Heaven, et on se retrouve juste après pour le 6, 7 et 8.
Yeah.
Ah, mais quand même. Non, mais franchement, hein, on est bien d'accord que ce Wham, The Age of Heaven, c'est quand même quelque chose. Alors, écoutez, le 6, Slow Horses, saison 5. Et on est reparti pour nos branquignoles préférées de MI5, puisque nouvelle enquête se tourne et se focalise sur le nerd de service, hein, l'informaticien un peu barré de l'équipe de Jackson Lamb. Franchement, ça encore... Bah, c'est encore du haut niveau. On est bien d'accord sur la question. 5 saisons de Slow Horses, 5 excellentes saisons. À chaque fois, des épisodes, une saison qui est centrée sur un élément particulier de l'équipe. Donc, généralement, c'est toujours sur un des personnages. Et c'est là qu'on apprend un peu plus sur le passé, sur le présent, sur ce qu'il cache, sur ce qu'il a fait pour se retrouver dans cette succursale des nuls. Parce que là, c'est vraiment les cas sociaux, hein, qui sont rassemblés. Alors, pas parce qu'ils sont débiles, hein, parce qu'ils sont quand même agents du MI5, hein, donc le MI5 les garde. Mais ils ont fait des choses qui, soit ils ont loupé une mission, soit ils sont un peu déstabilisés. Bref, franchement, c'est très très bon. On en apprend aussi beaucoup sur la période très grand espion de Jackson Lamb, alors qu'il est toujours aussi crados. Alors, Gary Oldman est exceptionnel dans ce personnage vraiment cradingue, mauvais comme une teigne, etc. Mais qui aime beaucoup ses agents, même s'il les traite comme des merdes. Hein, ça, c'est voilà. Et franchement, moi, c'est toujours jouissif, hein, de regarder Slow Horses. Alors, la saison 6 est annoncée cette année, donc en 2026. Et visiblement, la 7 et la 8 sont prévues. Hein, donc, je jubile. Je suis content, Lisa, content, Lisa, content. Quoi? Ah, il faut pas que je tape des mains. Le lutin, rendors-toi, s'il te plaît. Non, mais il est sage, hein, mais aujourd'hui, il fait autre chose pendant qu'on travaille. Pendant que je parle, il fait autre chose. Non, mais ça fait plaisir. Hein, j'ai son crâne en visu, c'est super. Alors, numéro 7, c'est l'autre, le suivi de 1883, c'est 1923. Pareil, alors attention, couple mythique de petits vieux, on va dire, enfin... toute proportion gardée et avec tout le respect que je leur dois, c'est Harrison Ford et Helen Mirren, qui sont donc les descendants de la famille Dutton, qui s'est installée donc tranquillement depuis 1883, tranquillement tout est relatif, et qui maintenant détient le plus grand ranch du Montana, et qui est assailli de toutes parts, parce qu'en fait, ce couple-là n'a pas de descendance, à part le neveu, mais neveu qui, lui, a fait la Première Guerre mondiale pour les Américains, et qui a été gravement traumatisé, qui est parti vivre en Afrique pour être un espèce de pisteur, si vous voulez. Et donc, en fait, ils n'ont aucun espoir qu'il revienne, parce que ça fait des années qu'ils lui demandent de revenir, puisqu'on est en 1923, et qu'il ne revient pas, et qu'il ne répond pas, et qu'il ne leur donne pas de nouvelles. Et sa tante, donc, qui est jouée par Helen Mirren, décide de lui envoyer des lettres. Et en fait, les lettres sont vraiment des lettres de maternelle, d'amour, parce qu'elle lui, en tant que tante, elle le considère comme son fils adoptif et elle lui explique qu'ils sont vieillissants et qu'ils sont attaqués de toutes parts et que le ranch risque de partir. Donc on suit en parallèle ceux qui sont dans le Montana et ceux qui sont en Afrique, lui. Donc, lui, il va rencontrer une sublime blonde qui affilie au roi d'Angleterre, etc. Bon, bref, grand amour, coup de foudre, ils n'ont aucun rapport avec l'âge courte, mais parfait. Jusqu'au moment où, effectivement, il y a une lettre qui va être un peu plus alarmiste et qu'elle va lui préciser cette lettre-là et qu'ils vont décider de partir aux États-Unis pour aller régler les comptes et aller sauver le domaine. Voilà, donc c'est très très bien fait comme 1883. Le seul truc, c'est que l'histoire d'amour, on va dire africaine, il est un peu à la Out of Africa / Cendrillon / La Belle au Bois Dormant, hein. C'est le seul point noir que j'ai, enfin noir, qui m'a un peu gonflé parce que j'ai trouvé ça soit trop téléphoné, soit trop facile, soit il y a trop d'épreuves qui sont vraiment un peu invraisemblables quelquefois. Notamment alors larmoyant à la fin, vous vous dites non mais là tout ça pour ça, peut-être éviter de nous faire ce genre de truc. Alors on le comprend après quand on voit Yellowstone, voilà, parce qu'il y a des répercussions sur les descendants, voilà, mais c'est trop larmoyant, voilà, et puis c'est trop un peu trop conte de fées par rapport à ce que on peut imaginer, voilà. Mais sinon c'est une très très bonne série. Alors je vous dis, c'est juste pas, moi j'ai un problème avec les histoires d'amour guimauve. Alors je le sais, je suis le lutin approuve. Oui, oh bah ça va, hein, pour quelqu'un qui regarde des trucs un peu guimauve, tu te calmes déjà, toi. Oh oui, non, mais enfin, le guimauve de nous deux, c'est lui. Oui. Mais voilà, moi, j'aime bien le romanesque, mais pas le romantique guimauve. Voilà, et là, quelques moments, c'est un peu guimauve pour moi, un peu trop. Mais 1983, c'est vraiment très bon. Puis alors, Harrison Ford et la Mirren, quoi. Moi, ce garçon, je vais, enfin, cet homme, je l'épouserai même maintenant, je veux dire, il n'y a pas de souci. Ah, si, ah, Harrison Ford, forever, hein. Et donc, le 8, c'est la deuxième saison de Rogue Heroes. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire de SAS. La première saison avait été absolument. C'est volcanique le truc. Voilà, ça suit les premiers SAS dans le désert, d'abord en Libye, etc., contre l'Afrika Korps de Rommel. Et la deuxième saison, ils ont réussi à endiguer le truc et ils vont se joindre, ils vont être en fait envoyés en premier pour préparer le débarquement en Sicile et en Italie. Alors, il y en a un, le chef a été arrêté et dans une geôle italienne, et donc nous, on suit son second, l'Irlandais, qui est complètement barré, qui est pas du tout maîtrisable, sauf quand il y avait son chef, hein, en fait, en gros, David Sterling. Alors lui se morfond au fin fond d'une geôle parce qu'il pense que sa dulcinée espionne française est morte alors qu'elle l'est pas, mais on a bien compris qu'elle l'était pas, il y a que lui qui a pas compris. Voilà, mais on les suit dans leur truc. Alors ça canarde de partout, hein, c'est la guerre, je rappelle. Mais il y a des moments de grâce, il y a des moments très tristes, il y a des moments hilarants, parce que c'est vraiment des fois des péniclés dans certaines situations, mais vraiment, ils sont très très bons. Voilà. Et c'est toujours rythmé avec cette musique hyper moderne qui envoie du Arctic Monkeys, du AC/DC, etc. Et vous avez à côté des moments où vous vous dites, mais on est sur quelle planète? Voilà. C'est le pied au plancher à 300 à l'heure tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Même dans les moments calmes, c'est à 300. Et ça arrive derrière, vous prenez une rafale ou une bombe ou un truc comme ça, et c'est absolument génial. Alors, forcément, il y aura une saison 3, puisque théoriquement, les livres dont est tirée la série, les SAS, en sont vraiment arrivés à Berlin. Donc, forcément, il va falloir qu'on les envoie à Berlin. Voilà. Donc, vraiment, Rogue Heroes, saison 2, franchement, allez-y si vous aimez ce genre de choses. Alors, nouvelle petite pause musicale, l'avant-dernière, et on parlera donc du dernier, dernière série et du film. La pause, bah écoutez, vu qu'on va y aller, le jeu de mots était excellent. Luna Parker, tes états d'âme, Eric, oui, tes états d'Amérique, les états d'Amérique. Voilà, vous allez voir pourquoi, pour les deux qui suivent, c'était excellemment bien trouvé. Je dois avouer que c'est moi qui l'ai trouvé, c'est pas le lutte. Non, mais moi je balance pas, hein, je dis, c'est tout. Toi, tu as choisi le dernier, alors je fais ce que je peux déjà. C'était donc Luna Parker avec Tes états d'âme, Eric, et on va donc parler des États-Unis dans la dernière série, en tous les cas, de le top 9, qui s'appelle Paradise. Alors, c'est une série assez étrange, puisque on est aux États-Unis. La première, le début, nous montre un président des États-Unis qui est assassiné. Son chef de la sécurité arrive, le découvre, et il va se passer un quart d'heure pendant le en fait, ce chef de la sécurité du président cherche des preuves. Se découvre qu'en fait, il n'était pas seul. Et donc, voilà, il y a toute une ambiance qui se fait où, est-ce qu'il s'est tué, est-ce qu'il a été tué, etc. Mais la série n'est pas aussi facile que ça, puisqu'en fait, on découvre très rapidement que cette société, cette ville, américaine, est calfeutré au tréfonds d'une montagne, mais alors creusé on ne sait pas combien de kilomètres, mais à quelques kilomètres sous la terre, sous cette montagne, puisque le monde tel qu'on le connaît a subi une catastrophe écologique et que plus ou moins il n'y a plus rien sur la surface de la terre, en tous les cas il n'y a plus personne qui peut y vivre, et que les meilleurs d'entre le monde, on va dire, ont été sélectionnés pour faire cette nouvelle société, pour en fait continuer l'humanité sous terre, et que bien en fait tout simplement tout est fictif, le soleil est fictif, les plantes sont fictives, les animaux, le peu d'animaux qu'il y a, il y a des animaux qui volent dans le ciel, ils sont fictifs, que c'est un dôme, en fait, qui diffuse des images, etc. Et que ce président-là avait une vision qui ne collait pas avec le conseil d'administration de cette société-là. Et tout ça va s'imbriquer. C'est-à-dire que vraiment, c'est une enquête qui va se dérouler sous nos yeux. C'est un peu entre l'anticipation et le post-apocalyptique, vraiment. Mais c'est très, très bien fait. Vraiment, et on s'y croit à tous les moments. James Marden est un président des États-Unis charismatique. Ça sera un croisement entre Kennedy et De Gaulle, en fait, si vous voulez. On peut voir ça comme ça. Mais il y a beaucoup de flashbacks. Donc on apprend ce qui s'est passé avant, mais par petites touches. Voilà, et même la révélation finale, vous vous y attendez absolument pas, à aucun moment. Alors, je ne sais pas s'il y a une saison 2 qui pourrait être une saison 2, parce que vu la fin, ça peut, mais ça peut ne pas l'être. Voilà, ça peut se clôturer exactement de la même façon. Moi, je n'ai pas été frustrée de me dire « Ah, je veux savoir la suite !» Parce qu'en fait, plus ou moins, ils vous laissent une porte tellement immense d'imagination que vous pouvez vous contenter de la fin et imaginer ce qui pourrait être après, ou vous pouvez vous dire non, ça finit comme ça, c'est terminé, de toute façon je n'en attendais pas plus, vraiment. Alors Paradise, je ne l'ai pas vu tourner et je n'ai pas vu beaucoup de publicité, mais c'est très dommage parce que c'est une très très bonne série. J'ai été vraiment subjuguée, moi, vraiment. C'était au début de l'année, et pour vous dire, quand j'ai fait mon bilan fin d'année, elle m'est venue immédiatement. Je veux dire, je ne me suis pas dit « Oh, laquelle j'ai vu ?» Non. Je me suis dit « Là, il faut qu'elle soit dans le top 10, il n'y a pas à tortiller. » Et le film, donc, c'est un film aussi qui se passe aux États-Unis, oui, les États d'Amérique. Ah bah oui, de temps en temps, Lisa. Bah c'est le nouvelle année, Lisa a fait reset, hein, je pense que j'ai fait reset dans la nuit, plutôt du 2 au 3, vous voyez ce que je veux dire, parce que la nuit du 31 au 1, j'étais pas... Ah bah après 3h15 d'antenne, j'étais pas au fin fond de la forme, en plus on a bugué au début, enfin bon, bref. Oui, oh bah écoutez, si on n'a pas poussé le bouton, voilà, l'autre il était un peu trop imbibé, enfin peut-être qu'il était... Non, il avait un verre à la main, il n'a pas réussi à pousser le bouton. Ah bah écoutez, ça arrive, il y a des bugs. Ah, vous savez, les vieux. Ah ben, il faudrait pas nous donner l'antenne. Les vieux, vous savez, c'est pas... Bon, bref. Et ce film-là, c'est un film que j'avais loupé au ciné parce que ma petite salle que j'adore ne le diffusait pas. Pourtant, l'actrice est une actrice que... Mais vraiment, je suis tout le temps, c'est Kirsten Dunst. Vraiment. Je la trouve vraiment toujours juste, toujours excellente. Enfin, vraiment, c'est une fille que j'adore. Donc, on est dans... une Amérique actuelle, mais un tout petit peu plus, on va dire, anticipation, puisqu'en fait, il y a une deuxième guerre de sécession qui est arrivée sur les États-Unis. Alors, toute relation avec ce qui arrive actuellement aux États-Unis, entre les tensions, entre les deux camps, entre les groupes, entre les populations et leur cher et tendre président Orange. Et ces décisions un peu... Enfin, de toute façon, à un moment donné, il faut arrêter d'imaginer qu'il est une idée autre que son enrichissement personnel et familial, hein. Il faut arrêter de penser à ça, enfin à autre chose que ça. Et donc là, on est vraiment dans la deuxième post-seconde guerre de sécession, c'est-à-dire qu'il y a des États qui ont vraiment, ils se sont séparés des États-Unis, donc ils ont pris leur indépendance et l'armée a été envoyée par le président qui, lui, est toujours en place pour certains États, et il a envoyé des troupes contre ces États. En disant « bah maintenant ça suffit, voilà ». Et nous, on va suivre une journaliste qui est jouée par Kirsten Dunst, qui est une grand reporter de guerre, qui a obtenu une interview avec le président des États-Unis. Donc il faut qu'elle passe toutes les lignes de front pour aller jusqu'à Washington, pour interviewer ce président, pour lui demander entre guillemets des comptes. Et donc elle va partir avec son caméraman, avec un chauffeur. Elle va récupérer une gamine qui est étudiante en journalisme, qui va être journaliste, mais qui est comme tous les gamins de notre génération actuelle, collés à leur écran, qui veulent faire le plus de buzz possible, le plus de likes possible, au détriment de leur propre sécurité, de leur propre réflexion. Donc en fait, elle va se retrouver avec ce rôle de mentor, alors que elle est reporter de guerre, elle en a vu d'autres et qu'elle sait où sont les pièges. La traversée des États-Unis, dans ces États-Unis où vous traversez d'une ligne de front, où il y a des gens qui se battent et qui veulent se tuer, à des endroits qui ont en gros déclamé qu'ils étaient neutres, pacifistes, et donc vous avez des moments où vous traversez une ville, vous avez l'impression que c'est Disneyland. Et autour, c'est carrément, c'est Dunkerque, voilà. Donc vraiment, c'est impressionnant ce film-là de sa couleur qui est un peu ocre, un peu apocalyptique, un peu sépia. Mais le propos est vraiment sur la liberté de la presse, sur la liberté de chaque individu d'avoir accès à une information juste, vérifiée, recoupée, et ne pas uniquement être dans l'instantanéité, de ne pas scroller toutes les 5 minutes parce qu'on est abreuvé d'images courtes et que notre cerveau n'arrive plus à faire le tri. Franchement, c'est un plaidoyer pour la liberté des journalistes de presse, mais des vrais journalistes, hein, pas de ceux qui font qui sont sur le terrain, qui vont dans les zones de guerre et qui rapportent vraiment des faits authentiques qui ont été recoupés, surcoupés, tout ce que vous voulez. Franchement, c'est un film qui... Alors attention, c'est un film qui, si vous n'avez pas le moral, surtout en ce moment, faut y aller avec un gros moral quand même, hein, parce que ça ne vous donne pas du tout une vision optimiste de l'avenir de notre tendre petite planète. Hein. Ah bah, elle est bien mal partie, la bête. Mais franchement, c'est un film à voir. Voilà. Et moi, j'ai toujours... depuis que je suis petite, on m'a toujours enseigné la liberté d'expression et de la presse et de l'information. Et franchement, c'est quelque chose pour lequel je suis sensible. Après, ceux qui ne sont pas sensibles à ça, ils vont se dire, on s'en fout, en fait, en gros. Mais vraiment, ça s'appelle Civil War, donc la guerre civile. Hein. Et c'est vraiment un très, très beau film. Après, il est dur, vraiment très dur par moments. Y a des choix qui sont à faire. Et d'ailleurs, cette jeune fille, à un moment donné, apprend sur le vif que quelquefois, c'est pas d'être lâche de ne pas décider. On va décider, mais quitte à se faire tuer, et est-ce que ça va vraiment faire avancer le schmilblick ? Non. Voilà, donc elle l'apprend à ses dépens, hein, à un moment donné, et la scène est très, très, très dure et très difficile à enquiller, mais le réalisateur vous met à la place des actrices, en fait. Vous mettez à la place de ces jeunes, de ces journalistes et de leurs chauffeurs, pour réfléchir ce que vous feriez à leur place. Voilà. Et ça, c'est pas dans tous les films qu'on arrive à faire ça. Donc ça s'appelle Civil War. Voilà. Donc ça, c'était mon bilan ciné de l'année 2025. Écoutez, moi, j'ai passé une très bonne année. J'ai pas. Il y en a 4 autres, hein, si ça vous intéresse. J'ai fait une vidéo YouTube sur les 14, donc il y en a 4 autres de plus. Mais là, vraiment, c'était vraiment mon on va dire, mon top 10 absolu des trucs qui m'ont vraiment révolutionné et des séries que je pourrais re-regarder. Voilà, moi, généralement, dans mon top, que ça soit série ou roman, c'est des choses que je peux regarder ou relire. Voilà, c'est pas des trucs qui m'ennuieront de le faire. Bon, écoutez, on va se quitter pour la première émission de l'année. On va se quitter avec le choix musical du lutin, qui est un bon choix, qui va permettre de danser un tout petit peu, vu que vous êtes sûrement proche de faire la bouffe ou en train. Là, il faut se mettre au pot-au-feu et au truc de légumes, hein. On est bien d'accord sur la question, n'attaquez pas la raclette tout de suite. Ah bah non, en février, après, pendant les crêpes. Voilà. Oui, parce que là, il y a la galette des rois. Demain, c'est l'épiphanie, théoriquement. Donc, galette des rois, ça va traîner encore pendant 10 jours. Peut-être faire des pauses quand même, hein, sinon on va pas tenir. On se donne rendez-vous, donc, lutin, 19. Le 19 janvier, donc, pour le bilan des 12 romans préférés de l'année 2025 de Lisa. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Nous, on s'occupe de vos petites oreilles, vous vous occupez de vous, de vos proches et de ce que vous aimez. On s'est bien caillé, donc voilà. Ah, l'hiver va être rude, hein. Ça a été bien froid. Ouh, ça a piqué. Ah, vraiment, vu que du blanc quand même, hein. Voilà. Et donc, on se quitte avec mademoiselle. Non, on dit mademoiselle pour une artiste, quand, même si elle est mariée, on s'en fout. Elle n'est pas mariée actuellement, mais voilà. Mademoiselle, Madonna. Avec Into the Groove. Ah oui, ça date pas d'hier. Ah oui. Bah écoutez, on fait ce qu'on peut. Déjà, Luna Parker, c'était... Ah bah, on a diffusé que des vieux trucs, hein. Enfin, vieux. Pas si vieux. Enfin, si, quand même. Si. Wham et Dao, ça a quand même bien 40 ans, quand même. Ça a 40 ans, peut-être, cette année, pour Duel au Soleil, quand même. Hein. 86, peut-être, je crois. Oula. Bah écoutez, ça nous amène à nous rappeler que nous étions jeunes et beaux. Ah oui. Allez, Madonna, Into the Groove. Et donc, dans 15 jours. On se retrouve pour le top des romans de Lisa. Préparez votre liste pour aller directement à la librairie ou à la médiathèque ou à la bibliothèque de votre coin. Ciao, Madonna, Into the Groove. And you can dance for inspiration. Come on. I want you.